Rebonjour, rebonjour tout le monde. J'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie le docteur David Fortin. Bonjour, docteur.
Oui, bonjour François, merci de me recevoir.
Ben, ça me fait plaisir. Vous êtes directeur de la chaire de recherche sur les tumeurs cérébrales, professeur titulaire, département de chirurgie, de radiobiologie et de pharmacologie à l'Université de Sherbrooke, si je ne me trompe. Il y a eu un rapport publié il y a quelques semaines par la revue scientifique médicale de Lancet, là, qui est vraiment une référence, qu'il est possible de corriger certains facteurs de risque pour les démences. C'est une bonne nouvelle. Il y a des choses que l'on peut faire soi-même. C'est bien. Mais quand on dit démence, si on veut commencer par le commencement, il existe plusieurs types de démence. Ce n'est pas une maladie.
Oui, c'est ça. Le terme démence, en fait, c'est un terme parapluie qui regroupe plusieurs maladies qui vont produire évidemment une pléiade de symptômes. La plus connue, celle dont on entend le plus parler, c'est évidemment la démence d'Alzheimer, qui est aussi la plus fréquente.
D'accord.
Donc, elle tire son nom là, du neurologue qui l'a découvert à l'AS Alzheimer en 1906. Et toutes ces maladies-là ont pour caractéristique de s'attaquer à une population de neurones bien précis et entraîner leur perte graduelle, ce qui va évidemment s'accompagner de changements la plupart du temps cognitifs initialement, qui vont aller en empirant et malheureusement...
Ça devient des changements moteurs aussi à un moment donné, oui.
Oui, tout à fait, mais ça commence classiquement, là, je vous dirais, les changements les plus fréquents pour la majorité de ces maladies-là, sauf la maladie de Parkinson, qui va débuter avec des changements moteurs. Mais sinon, la plupart de ces maladies-là vont se traduire par des changements cognitifs qui vont être variés, mais qui classiquement vont toucher la mémoire à court terme.
D'accord. Et ce que vous dites, c'est que chacune de ces touche un groupe de cellules en particulier. Donc, on peut faire la distinction.
Oui, c'est ça. Donc, la maladie d'Alzheimer va toucher classiquement des neurones qui sont dans une région qu'on appelle le prosencéphale basal. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que cette région-là?
Ça semble être en avant, là, mais c'est juste
c'est
comme...
ça.
Oui, voilà.
C'est une région qui est dans le lobe, qui est à la base du lobe frontal, qui ont pour caractéristique d'avoir un neurotransmetteur qu'on appelle l'acétylcholine. Et la maladie d'Alzheimer va débuter classiquement avec effectivement des problèmes d'encodage de la mémoire de court terme à long terme et des problèmes d'extraction de ces mêmes mémoires.
D'accord. Et les autres types de démence, on entend parler de sénilité ou est-ce que c'est encore un autre terme parapluie?
Bien, sénilité veut simplement dire qu'on vieillit. Hein. Sénile réfère au vieillissement, je dirais, normal, alors que démence, c'est vraiment plutôt un processus pathologique.
D'accord.
Les autres types de démence, là, on a parlé tantôt de la maladie de Parkinson qui débute avec des désordres de mouvement qui vont éventuellement se traduire par des problèmes cognitifs. De fait, la majorité des observateurs de la politique américaine suspectait M. Biden là, d'être atteint d'un Parkinson à cause de sa démarche très rigide.
Ah, d'accord. Bon, ben en fait, mais disons que on pourrait parler de d'autres personnes politiques là, qui ont... Ronald Reagan a fini ses dernières années aussi atteint d'Alzheimer. Là, puis on pourrait penser pendant à la fin de sa présidence que parfois il ne semblait pas toujours aussi vif d'esprit qu'il pouvait l'être au début.
Oui, tout à fait.
La population mondiale, surtout dans les pays occidentaux, vieillit. Les cas de démence vont simplement augmenter dans la population. Ça va devenir très lourd. Et pour revenir à l'article ou à la recherche qui était mentionnée dans le magazine scientifique de Lancet, il y a des choses qui sont possibles de faire, où il y a des pistes de prévention.
Ouais, pour revenir à ce que vous venez de dire, François, peut-être juste une précision. Là, en 2019, on estimait qu'il y avait 51 millions d'individus autour de la planète qui étaient atteints de démence et on prévoit qu'en 2050, ça va tripler, ça va passer à 153 millions. Et ça, c'est évidemment directement en lien avec le vieillissement de la population.
Oui.
Ces maladies-là augmentent avec l'âge et plus la population va réussir à... Plus la survie médiane va augmenter, évidemment, plus l'incidence des démences va augmenter.
Exact. Plus il y aura d'octogénaires parmi nous, bien, on pourrait penser que parmi ceux-là et celles-ci, il y aura une prévalence. Souvent, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, alors ça peut être aussi un cas. Mais il y a des gens qui, aujourd'hui, ont 50 ans, qui, en 2050, en auront pas loin de 80. Qu'est-ce qu'ils ou elles peuvent faire pour se soustraire d'une démence précoce?
Oui, ben en fait, ce que cette étude-là du Lancet nous dit, c'est qu'il y a plusieurs facteurs sur lesquels on a prise, qu'on peut corriger et ainsi diminuer nos risques de démence. Bon, il y a évidemment des facteurs sur lesquels on n'a pas de prise. Ceux-là, on n'y pense pas, mais si on regarde, là, eux autres, dans leur étude, ils ont séparé la vie en trois grandes périodes, donc la période précoce, la période qu'ils appellent midlife ou la vie moyenne, donc de 40 à 60 ans, et late life. Croyez-le ou non, c'est 60 ans et plus.
Oui, ma femme. ça commence tôt, mais enfin, c'est arbitraire, oui.
Donc, dans la période précoce, en fait, la première mesure sur laquelle il faut agir, qui aurait une incidence dans une proportion d'environ 5 % comme facteur causal de démence, c'est l'éducation.
Oh, okay.
Donc, des études très, très claires qui montrent que des gens qui ne sont pas éduqués vont avoir une incidence de démence beaucoup plus importante. Ça, c'est probablement en lien avec le fait d'utiliser son cerveau, de le garder bien actif, de le protéger. Ce faisant, ben, quand on garde notre cerveau actif, on le garde en activité, on entretient, si vous voulez, la population, oui, les populations neuronales, puis on prévient la dégradation, oui, des grands réseaux neuronaux.
L'éducation va faire appel beaucoup à la mémoire, entre
oui,
autres.
Oui, puis on présume que des gens qui ont une éducation plus accomplie vont exercer des tâches cognitives un petit peu plus
complexes,
difficiles. Puis oui, je vous dirais que le cerveau, lui, a besoin d'être mis en tension comme ça. C'est important de l'exercer, puis de l'exercer non pas dans la facilité, mais vraiment essayer de le faire travailler, de le faire forcer un peu pour qu'il garde justement bien actif ces populations de neurones-là. Et donc, par ricochet, le cerveau prévient ici donc le déclin de ces populations de neurones-là. Puis les gens vont souvent demander qu'est-ce que je peux faire pour garder mon cerveau bien actif. La mesure la plus simple, c'est de la lecture. Il y a, oui, plusieurs activités cognitives qu'on peut faire, mais quand on regarde l'activité des grands réseaux de neurones, quand on fait de la lecture, et surtout de la lecture dans un contexte où on va essayer par la suite de retransmettre ce qu'on vient de lire. Donc, lecture, non pas dans un contexte d'apprentissage, mais dans un contexte didactique où je vais essayer de vous raconter par la suite le chapitre que je viens de lire, ben c'est une activité cognitive qui est extrêmement efficace pour le cerveau.
D'accord. Donc, faire de la lecture croisée, chacun lit son roman ou un livre et on en parle à notre conjoint, notre conjointe. Hein,
ouais.
On partage nos lectures avec des gens autour de nous. Et ça me fait peur un peu parce que je pense que l'activité de lire en tant que telle tente à décliner là, avec l'exposition à certaines technologies.
Je n'ai pas de statistiques à cet effet-là, mais je présume que vous avez raison.
C'est une constatation empirique de quelqu'un là, qui semble pas trouver beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir des livres entre les mains dans les endroits publics. Voilà.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Puis le problème avec les technologies digitales, mais évidemment, un écran maintenant qui est multifonction, on peut faire à peu près n'importe quoi avec le dit écran. Donc, on peut soit lire, mais plus souvent regarder des vidéos, regarder des insignifiants sur les réseaux sociaux. Et là, c'est certain qu'on ne met pas tant que ça nos activités.
C'est pas la même. C'est un peu comme dire, parce que finalement, c'est comme faire de l'exercice ou ne pas en faire. Si on va au gym, puis on appuie un peu sur la pédale, puis on se donne à fond, c'est une chose. Si on prend une marche autour du pâté de maison, c'en est une autre. La musculation ne sera pas stimulée de la même façon. Alors, c'est un peu le même bilan qu'on peut faire de l'activité cérébrale. Donc, ça, c'est en début de vie.
Ceci étant, je trouve ça important juste de mentionner que la marche, c'est une excellente activité physique, surtout si vous la faites à un bon rythme.
D'accord.
Oui, c'est que je ne veux pas décourager vos auditeurs.
Il faut marcher dans ce cas-là. Ben, tant mieux.
Ah oui. Moi, je dis à mes patients, là, marcher au moins une demi-heure par jour.
Oh, alors, OK. Ouais. Alors, la marche a un effet stimulant sur l'activité cérébrale.
En fait, c'est pas direct. Hein. Vous savez, c'est une activité de protection parce que vous entretenez votre système vasculaire.
D'accord.
Quand vous marchez.
Okay.
Quand vous faites de l'exercice, là, c'est vous favorisez une bonne santé vasculaire. Or, dans votre cerveau, dans votre tête, vous avez pour 650 km de vaisseaux sanguins.
OK.
C'est incroyable. Donc, évidemment, votre cerveau va être extrêmement tributaire de votre santé vasculaire. Donc, une bonne santé vasculaire, vous en bénéficiez, tout votre corps en bénéficie, y compris votre cerveau.
D'accord.
Oui, quand on fait de l'exercice physique, on protège aussi notre cerveau, mais c'est un lien qui est indirect, ça.
Oui,
en protégeant d'abord nos vaisseaux.
D'accord. Mais en fait, on irrigue le cerveau adéquatement, voilà. Puis, et après, dans la même optique, le magazine Lancet parle d'une autre partie de la vie, de 40 à 60, où là, souvent, on est professionnellement au cœur de l'action. Puis là, souvent, on fait des raccourcis où on mange mal ou on dort pas.
Bon, écoutez, il y a énormément de mesures là, qu'on peut déployer. La première, c'est une mesure qui touche aussi des pays sous-développés, là, mais corriger les problèmes de surdité. Le cerveau, pour être en activité, doit recevoir des intrants, hein, sensitifs, sensoriels. Il le fait via ses sens. Donc, corriger la vue, corriger l'audition, ça, c'est très important. Traiter efficacement la dépression. Minimiser les risques de traumatisme crânien, ça c'est extrêmement important. Il y a de nombreuses études qui montrent que des gens qui vont avoir eu ne serait-ce qu'une ou deux commotions cérébrales sont plus à risque de développer des démences.
OK.
Donc, protégez votre cerveau si vous faites des activités à risque.
Mettez votre casque si vous faites du vélo. Ouais.
Hein? Tout à fait.
Souvent, on voit des parents qui sont avec leurs enfants, puis c'est une belle sortie de vélo en famille. Tous les enfants ont un casque, mais pas les parents. Parce qu'eux sont immunisés contre les chutes.
Oui.
Ouais.
On aimerait le penser.
Ouais, voilà.
Pour faire de la garde de trauma en neurochirurgie, je peux vous dire que c'est malheureusement pas le cas. Donc, le conseil est là, portez un casque, protégez-vous. Un impact, même minime, peut avoir des conséquences dévastatrices qui peuvent perdurer dans le temps. Donc, puis en plus de ça, ben, on vient de le dire, vous augmentez vos risques de développer une démence. Donc, protégez vos cerveaux, c'est important.
D'accord.
L'effet bénéfique de l'arrêt du tabac est clairement démontré. Donc, encore une fois, on essaie de prévenir les facteurs de risque vasculaire que sont la consommation de tabac, l'hypertension, l'hypercholestérolémie et la prise exagérée d'alcool. Tout ça, c'est des facteurs là, qui sont des habitudes de vie assez faciles à corriger, qui ont leur importance pour la santé vasculaire, mais aussi dans la prévention des démences.
Parce que souvent, toutes ces bonnes habitudes de vie, on les associe plutôt aux maladies cardiovasculaires. Hein?
Ouais.
On dit le surpoids, le cholestérol, le tabagisme, le manque d'exercice. On va associer ça au risque de crise cardiaque. Mais le cerveau, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, est aussi tributaire d'une bonne circulation. Alors, on peut ne pas avoir de maladie cardiaque malgré toutes ces mauvaises habitudes, mais finalement, on est en train de saboter notre cerveau petit à petit.
Oui, en fait, on parlait au début de l'entrevue des différents types de démences. Il y a un des types de démences qu'on n'a même pas discuté, qu'on appelle la démence multivasculaire, qui est en fait une maladie des petits vaisseaux artériels qui alimentent le cerveau et qui vient directement de ces mauvaises habitudes de vie-là. Et lorsqu'on a une démence vasculaire, ben on a une démence au même titre qu'une maladie d'Alzheimer, mais cette fois-ci causée par une mauvaise santé des vaisseaux sanguins. Alors, protéger vos vaisseaux, c'est aussi protéger votre cerveau. Là.
Donc ça, c'est particulièrement un type de démence qui peut être prévenu par des habitudes de vie qui sont saines.
Oui, exactement. Tout à fait.
Si on passe 60 ans maintenant, c'est sûr que là, on peut dire, ben là, il faut que je commence à faire d'exercice, je vais arrêter de fumer, il faut que je mange comme il faut. On voit des gens qui se mettent à essayer d'apprendre des langues étrangères.
Ça aide? Quelle bonne idée.
Oui.
C'est extraordinaire. Oui, non. En fait, tantôt, j'ai insisté sur la lecture, mais le message n'est pas que vous devez limiter vos activités cognitives à la lecture. Hein. Vous avez bien raison d'insister sur cette idée-là d'apprendre une langue seconde, tout comme quelqu'un qui aime faire du sudoku, des mots cachés, des mots croisés.
Jouer au bridge.
Ah oui, les jeux de société, extraordinaires. En plus de ça, il y a une composante sociale aux jeux de société, et ça, c'est extrêmement important, parce que dans le dernier segment de la vie, late life, une des problématiques majeures qui a été identifiée, c'est l'isolement social.
D'accord.
Et ça, c'est extrêmement nocif pour la santé cérébrale, tout comme pour la santé en général. Hein. Les gens qui sont isolés socialement, souvent, vont avoir plus de dépression, vont avoir de moins bonnes habitudes de vie. Ça va impacter leur santé générale, mais clairement, ça va augmenter les risques de démence. Donc, il faut prévenir l'isolement social. Et si vous développez si vous décidez, par exemple, de vous lancer dans une nouvelle activité sportive, ben là, c'est une très bonne idée de vous inscrire à un groupe. Donc, vous faites ça dans un contexte où vous avez aussi des interactions sociales avec d'autres. Puis la même chose pour les jeux de société, le bridge, les cartes, etc. Là.
Oui, parce qu'en fait, il vaut mieux s'inscrire à un club de marche que de marcher tout seul.
Oui,
voilà.
Absolument.
Donc, c'est une façon de faire le tour. C'est extraordinaire comment, à chaque fois, l'idée de manger sainement, de ne pas mettre à l'intérieur de notre corps toutes sortes de choses qui ne sont pas faites pour y être, hein, et de bien dormir, de s'hydrater, de faire de l'exercice, ouais. et d'avoir un cercle autour de nous, ça semble être la panacée, là.
Vous parlez du sommeil, un excellent point. Hein. Très important d'avoir un sommeil le plus harmonieux possible. Et Dieu sait que la qualité du sommeil, malheureusement, chute à mesure qu'on vieillit. Donc, c'est important d'essayer de favoriser des conditions qui nous permettent d'avoir un sommeil acceptable. Parce qu'encore ici, on ne sait pas quel est l'œuf ou la poule, mais le manque de sommeil est associé à un processus démentiel.
D'accord.
Donc, je ne peux pas vous dire si c'est la démence qui produit ça ou le manque de sommeil qui peut induire ou augmenter les risques de démence, mais on sait qu'il y a un lien.
Il y a une corrélation. Mais enfin, oui. Et de toute façon, le manque de sommeil va créer d'autres problèmes alimentaires et ainsi de suite. On n'en est pas... On pourrait parler, Dr Fortin, pour des heures, parce que vous avez publié récemment un livre qui parle du cerveau et en fait qui souligne tout ce que l'on ne sait pas au sujet du cerveau. Oui. Et ça, c'est vraiment à la fois extraordinaire et un peu inquiétant, parce qu'on pense qu'on connaît beaucoup de choses et finalement, c'est comme le domaine de la science, toute science confondue, qui est peut-être le plus méconnu par le cerveau humain.
Je dirais que ce n'est pas si inquiétant que ça, mais ça éveille le mystère et la fascination, par contre.
Oui, oui, tout à fait, parce que ça, on met l'origine de la conscience, puis l'évolution du cerveau et tout ça. Votre livre, je le recommande, il est excellent. Et puis en plus, ben, c'est bon pour le cerveau de lire un livre qui nous fait réfléchir.
Oui.
Hein, voilà.
Oui, tout à fait. Alors, le cerveau, l'univers dans votre tête.
Exactement, qui vient...
Le cerveau, une galaxie dans votre tête.
Oui.
Le premier écrit en 2022, c'est tout ce qu'on sait sur le cerveau. Puis celui que vous venez de mentionner, c'est effectivement tout ce qu'on ne sait pas. C'est
encore, exact. Et là, ça laisse place à l'imagination, mais aussi c'est stimulant de penser aux recherches. Bien, Dr Fortin, c'est tout le temps dont on dispose. Je vous remercie.
Bien, merci à vous. C'était très agréable comme entrevue.
Merci. Bonne journée.
Merci. Bonne journée. Bye-bye.